archives de l'écologie. François Bernard.
Bienvenue, merci de nous rejoindre à l'écoute des archives de l'écologie. Du 10 au 21 novembre prochain, la ville de Belém au Brésil accueillera la COP 30. Les COP, si vous ne le savez pas, c'est les conférences des parties, ces réunions annuelles des pays qui fixent des objectifs en matière d'environnement. Ces réunions sont aussi l'occasion de constater l'avancée des progrès sur les problèmes qui se posent. Tout a commencé en 1992 dans la ville de Rio de Janeiro, qui accueillait une conférence baptisée « Le sommet de la Terre ». 178 pays y ont participé et pour la première fois, la communauté internationale a donné une définition officielle à ce qu'on appelle désormais le développement durable. En 1997, 5 ans plus tard donc, l'équipe de Fréquence Terre, une émission phare en matière d'écologie produite par Radio France Internationale, faisait le bilan du chemin parcouru depuis les résolutions prises à l'occasion de ce sommet de la Terre. Alors on écoute son reportage et on en parle juste après.
Fréquence Terre.
Nous avons la responsabilité, c'est une responsabilité éthique, de laisser aux générations futures un environnement qui est intact et des ressources naturelles qui sont productifs et qui vont aussi nourrir les générations futures.
Le message de Guibert Glaser de l'UNESCO est clair. Il rejoint celui de la déclaration finale de la réunion des 8 plus grands pays industrialisés qui a eu lieu à Denver en juin dernier. Si la tendance continue au siècle prochain, des conséquences inacceptables pour la santé humaine et l'environnement sont probables. 5 ans après le sommet de la Terre qui s'était tenu à Rio en 1992, le bilan est sombre. En 1992, la conférence de Rio avait affiché pour la première fois la nécessité d'un développement durable à échelle planétaire. 172 États avaient adopté 3 accords majeurs. L'Agenda 21, un plan global pour promouvoir le développement durable, la Déclaration de Rio, une série de principes qui définissent les droits et les devoirs des États, et un principe sur la gestion des forêts. Des conventions ont été signées sur les changements climatiques liés aux effets de serre, sur la biodiversité et sur la désertification. Guibert Glaser s'occupe de la coordination pour l'environnement et le développement durable à l'UNESCO et 5 ans après Rio, quelles sont les bonnes résolutions qui ont été prises? Où en est-on finalement?
Quel est le bilan? Évidemment, une question malheureusement facile à répondre puisque le bilan global est négatif. Si on regarde vraiment un progrès qui peut être mesuré dans l'amélioration de l'environnement ou l'amélioration des conditions de vie dans les différents continents. Puisque, comme vous le savez, le développement durable, c'est justement cette combinaison entre un développement socio-économique et la protection de la nature. Et dans tous ces domaines, le monde de 97 ne se présente pas mieux que le monde de 92, au contraire, surtout en ce qui concerne l'environnement de notre planète. Cet environnement s'est certainement dégradé encore dans les 5 ans qui se sont passés. Alors, de ce point de vue, le bilan est négatif. Il y a eu quelques progrès en ce qui concerne la surface qui est protégés dans des parcs nationaux ou des réserves de la biosphère comme ils sont promus par l'UNESCO. On peut dire qu'il y a un certain progrès dans la surface, les zones protégées pour la conservation de la biodiversité et aussi de certaines espèces qui sont menacées d'extinction. Mais tout ça est souvent très local et on ne peut pas certainement le confirmer sur le plan global. Il y a aussi eu un certain progrès en ce qui concerne la sensibilisation du public et la participation de beaucoup de groupes dans la promotion de cette idée d'un changement dans la direction du développement humain. Moi, je le compare souvent à un grand navire en croisière, et changer la direction de ce super navire, c'est pas facile. Mais on a commencé, en effet, à travers des mesures institutionnelles, des mesures éducatives, de la prise de conscience aussi de quelques décideurs dans le secteur industriel. On a commencé à faire ce changement.
Des changements dans les mentalités et les comportements qui devraient prendre du temps. Concrètement, il faut souligner qu'en un siècle, l'homme a causé plus de dommages sur la planète qu'en plusieurs millions d'années. On détruit les forêts tropicales au rythme de 12 millions d'hectares par an, ce qui laisse supposer qu'elles pourraient disparaître d'ici un siècle. Les zones côtières sont de plus en plus fragilisées par la migration des populations vers les littorales, où 60% vivent déjà aujourd'hui. Les ressources halieutiques des océans sont en plein déclin. La pression humaine condamne plus de 3,5 milliards d'hectares cultivables à la désertification. Et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 10% dans les pays industrialisés et de 25% dans les pays en développement. Et la liste est très longue. L'homme est en train d'entraîner sa propre disparition. Lors de la conférence de New York en juin dernier, ce bilan dramatique a renforcé les bonnes volontés. Nous avons fait un tour de table avec l'ambassadeur de France à l'ONU, Jacques Andréani, le président du comité 21 en France, Serge Antoine, et le président de la commission française pour le développement durable, Christian Brodag, qui annonce l'engagement de la France.
Oui, la France a affiché, par la voix d'ailleurs du président de la République, un certain nombre d'objectifs, bon, qui s'expriment aussi au sein de l'Union européenne, puisque de plus en plus à ce niveau-là, c'est l'Europe qui s'exprime, et qui d'ailleurs, par son poids, par sa vision des problèmes, occupe une place importante, hein, entre les États-Unis, qui prônent, je dirais, une certaine forme de libéralisme et un désengagement de l'aide publique, et puis les pays du tiers-monde, l'Europe a une position intermédiaire. Il y a une proposition précise qui a été faite par la France, c'est autour de l'eau. L'eau est le problème d'environnement des pays du Sud, hein, puisque c'est les conditions de la production agricole, c'est des problèmes de santé. Donc la France a poussé une initiative dans le domaine de l'eau, donc qui est intéressante. Et puis elle était présente sur l'ensemble des différents thèmes de cette commission, qui en fait traitait de ce bilan 5 ans après Rio.
Est-ce que ces conférences n'ont pas fait apparaître des clivages plus importants entre le Nord et le Sud et entre certains pays du Nord ? Serge Antoine, vous êtes donc directeur du comité 21, donc ici à Paris. Comment ceci s'est manifesté ?
Eh bien, à Rio déjà, on a constaté, à l'époque, le mur de Berlin avait sauté, que le vrai problème n'était plus le rapport Est-Ouest, ou des rapports sur une forme de gouvernance, mais bien, si vous voulez, le Nord-Sud. Le Nord-Sud, c'était déjà pas tant. Et si vous regardez les titres de la presse française à l'époque, c'était « il y aura du sang entre le Nord et le Sud ». Donc, si vous voulez, ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est aujourd'hui un certain désarroi de certains pays du Sud qui ne rattrapent pas le développement. C'est d'abord le développement chez eux qui est important et peut-être que le développement durable est moins porté aujourd'hui dans ces pays. Ça n'est pas simplement une question de vocabulaire, c'est aussi une question de ressources. À Rio, on avait, mais c'était une volonté un peu générale, dit qu'il fallait essayer d'augmenter les ressources des pays du Sud par un transfert allant jusqu'à 0,7% du PNB. On s'aperçoit aujourd'hui que le problème est plus compliqué, que les pays dits riches sont moins riches en argent public qu'ils ne l'étaient avant, et ceci ne facilite pas les choses. Il faudra donc trouver des systèmes de coopération. Je vous en donne un sur le thème de l'eau, qui n'est pas simplement de l'argent public, mais qui est une forme qu'on a inventée en France, qui était la solidarité eau, où les agences de l'eau ont prélevé un centime par mètre cube d'eau pour le distribuer à des projets du Sud. Il se trouve que dans mon petit village, je paie un centime par mètre cube d'eau. Personne ne le sait d'ailleurs ou ne le dit. C'est des petits ruisseaux mais qui font les grandes rivières. Voilà un système qui va nous obliger à réfléchir à des formes de coopération qui ne soient pas simplement des normes, des transferts technologiques, mais aussi, si vous voulez, un peu de solidarité entre le Nord et le Sud.
Alors, monsieur l'ambassadeur Jacques Andréani, justement, quelles sont les grandes bagarres de Rio plus 5, de cette conférence, notamment en ce qui concerne ces clivages nord-sud, en ce qui concerne ces intérêts divergents, parfois peut-être un manque de volonté politique ou manque de volonté économique, des intérêts qui vont finalement à l'encontre de ce qu'on appelle le développement durable.
Je crois qu'à Rio, on avait esquissé l'idée d'une espèce d'accord entre le nord et le sud avec une augmentation des transferts de ressources du nord vers le sud et en échange de quoi les pays du sud s'engageraient pour la protection de l'environnement en même temps que les pays du nord. Or, il faut bien voir que ce transfert de ressources n'a pas eu lieu, comme le disait M. Antoine. Les ressources affectées à l'aide au développement ont eu tendance à baisser au lieu d'augmenter. Alors les pays du sud considèrent qu'ils ont été victimes d'une duperie, qu'on leur a demandé de prendre des engagements de non-pollution qui revenait pour les pays industrialisés à leur dire « ne commettez pas les erreurs que nous avons commises. Dans le passé, nous nous sommes développés en polluant et vous ne devez pas faire ce que nous avons fait », ce qui suppose pour ces pays des coûts, des contraintes supplémentaires. Et les pays du Sud considèrent qu'ils sont donc victimes d'une duperie puisque les transferts de ressources qui devaient compenser ces coûts et ces contraintes supplémentaires n'ont pas été... ne sont pas survenus. Alors en plus, il y a un désaccord un peu sur la nature de la coopération pour le développement, puisqu'un certain nombre de pays, dans la veine du libéralisme économique, disent de plus en plus que ce n'est pas l'aide publique, l'aide gouvernementale au développement des pays pauvres qui compte. Ce qui compte pour le développement des pays pauvres, c'est la mobilisation de leurs propres ressources intérieures qui sont mal gérées et mal dépensées. Et c'est la création des réformes économiques qui permettront de créer les conditions de l'investissement privé étranger. Et c'est cet investissement privé étranger qui sauvera le développement. Beaucoup de pays, et nous-mêmes en Europe, nous répondons, c'est peut-être vrai pour les pays émergents, ceux qui sont en train de s'en tirer, comme les pays d'Amérique du Sud ou l'Inde ou les pays comme ça. Mais ce n'est pas vrai pour les pays les moins avancés qui n'ont aucune espèce de chance d'attirer dans l'état actuel des choses un investissement privé. Donc l'aide publique demeure absolument indispensable.
Jean Bacollet, président de la Coalition des organisations africaines pour la sécurité alimentaire et le développement durable, la COASAD, dresse la situation difficile des pays africains.
Les pays industrialisés devraient accroître l'aide au développement des 0,7% de leur produit national brut. Bon, cela avait déjà été promis depuis les années 70. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. En rapport, par exemple, avec l'écotaxe sur l'énergie, en rapport avec les COD. Mais on se rend compte que concrètement, toutes ces déclarations se sont limitées à un niveau, mais ne sont pas allées vraiment très loin quant à leur opérationnalisation sur le terrain. Et je crois que pour le continent africain, il appartient aujourd'hui aux différents acteurs, en rapport plutôt avec les pouvoirs publics, mais aussi en rapport avec les acteurs de la société civile, d'essayer de voir concrètement comment essayer de mener, un développement économique, puisque je crois qu'on en a besoin, mais qui soit respectueux, par exemple, d'une bonne gestion de la forêt, de la gestion du sol. Mais je pense que de notre côté, au niveau africain, on doit essayer de se poser des questions en rapport avec les problèmes nouveaux.
Des problèmes nouveaux essentiellement dus à la croissance démographique. Mais dans ces conférences, ces réunions à l'infini et les conflits d'organisation et de procédures, cela freine la mise en œuvre des conventions. Christian Brodag.
Là où ça bloque, en fait, c'est effectivement de mettre en place des institutions supranationales au niveau de l'ONU pour gérer ces problèmes d'environnement, de développement social. Donc là, c'est vrai que ça coince, ça donne toujours une image un peu de paralysie de ces grandes messes et de ces grandes assemblées. Par contre, finalement, je pense que sur le terrain, les choses avancent. Réconcilier environnement et développement, ça ne peut pas se faire comme ça en l'espace de quelques années. Rio, c'est seulement il y a 5 ans, il est question là presque d'un changement de civilisation. Et donc, on a un certain nombre de bonnes pratiques, d'initiatives qui se prennent ici et là, de réseaux qui se constituent. Et en fait, l'intégration justement de ce développement durable sur place, localement, il y a par exemple ce qu'on appelle les agendas 21 locaux, c'est-à-dire des objectifs par territoire, sur les villes, sur des territoires particuliers, de réflexion à long terme qui se mettent en place. Et des réseaux se constituent, les bonnes expériences des uns servent aux autres. Tout ceci avance. Alors évidemment, la question est de savoir, est-ce que ça avance assez vite eu égard des problèmes d'environnement qui, eux, progressent aussi malheureusement très vite. Et donc ça, c'est une des questions, mais c'est une étape et je crois qu'il y a de plus en plus une mobilisation à la base sur ces thèmes-là.
Est-ce que les gouvernements ont des actions particulières qu'ils préconisent et qu'ils imposent vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la gestion de la vie quotidienne, finalement, vis-à-vis de l'opinion publique ?
Alors effectivement, il y a à la fois les États doivent avoir, évidemment mettre en place des lois, éventuellement des contraintes, des outils économiques, des taxes qui font payer aux pollueurs le prix de ces pollutions. Donc il y a ce versant-là. Mais il y a aussi un versant de mobilisation positive. Et c'est-à-dire que le développement durable, les nouvelles technologies, l'éducation, de nouveaux modes de vie et de consommation peuvent être des opportunités positives. Il faut aussi voir ce versant positif. Et quand on regarde donc la prochaine commission de développement durable, donc qui est la commission qui se réunit tous les ans cette fois-ci, hein, pas tous les 5 ans mais tous les ans, va parler d'eau, d'éducation, et je crois que c'est fondamental cette éducation, donc comment on intègre ces problématiques dans le monde éducatif, et puis ça va être celui des technologies et de l'industrie. Et donc là-dessus, ce sont des engagements et un nouveau cadre, je dirais, dans lequel doivent se développer les stratégies des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, à travers de nouvelles technologies, à travers une approche beaucoup plus axée sur les services que sur les produits, tout ceci est un monde qui évolue, l'objectif étant, à terme, pour les mêmes services, pour le même niveau de vie, de consommer 4 fois moins d'énergie, par exemple. C'est un objectif qui a été affiché à New York et qui est accessible, on pense, dans 20 ans ou 30 ans.
Les conflits émergent surtout sur le terrain financier et commercial. Par exemple, les pays en développement réclament une contrepartie financière à l'exploitation de leur patrimoine génétique et des substances que les pays industrialisés commercialisent après les avoir brevetées. Alors comment imposer des normes environnementales au niveau planétaire sans léser les plus démunis ? Christian Brodag.
Aujourd'hui, la question de fond, c'est comment mettre en place des régulations en matière sociale et en matière d'environnement dans un marché mondialisé qui est géré par l'Organisation mondiale du commerce, qui ne prend pas en compte ces contraintes-là. Alors, il faudra à la fois mettre en place des réglementations internationales. Aujourd'hui, une des propositions, c'est passer par les labels. Les normes ISO 14000 sont un premier pas. Alors, on nous dit aujourd'hui qu'elles sont volontaires, mais il est évident qu'un certain nombre d'entreprises n'auront recours qu'à des sous-traitants qui seront certifiés et que ce sera une autre forme, je dirais pas de protectionnisme, mais d'équilibre qui se met en place. Alors il faut éviter que les barrières environnementales et sociales deviennent vraiment des barrières au commerce, parce que à ce moment-là, les pays du Sud ne pourront pas se développer. Et c'est eux d'ailleurs qui réclament de n'avoir aucune réglementation ou peu de réglementation en matière de travail des enfants ou en matière d'environnement. Mais en même temps, si on décidait, par exemple, nous, de supprimer le travail des enfants, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui travaillent aujourd'hui pour vivre ? Est-ce qu'on leur donne les moyens de vivre ? Et il faudrait les éduquer, il faut effectivement mettre en place des substitutions. Et les grands principes, c'est bien, mais derrière, il faut effectivement mettre les moyens. Et on n'est pas toujours prêt. On est plus prêt à donner des leçons, je crois, qu'à donner de l'argent.
Sur le terrain, l'association 4D, Dossier et débat pour le développement durable, tente de mobiliser tous les acteurs de la société. Michel Mouzel est président de 4D.
4D s'est créé dans le but de favoriser au maximum le travail réalisé par les acteurs eux-mêmes qui vont dans le sens du développement durable. Nous ne voulons pas nous substituer aux gens qui agissent directement. Il y a des associations, des municipalités, des entreprises, des acteurs eux-mêmes qui ont des choses à faire en application des grandes orientations qui ont été prises. Le problème, c'est justement de passer des grandes orientations très générales à l'action concrète sur le terrain. Et c'est cet intermédiaire que nous voulons essayer de faire.
Alors au niveau des collectivités locales, il y a ce qu'on appelle aussi les agendas 21 locaux. C'est-à-dire que les collectivités locales doivent appliquer les règles qui ont donc été fixées à Rio sur oui. différents types de conventions, des recommandations oui. Concernant l'environnement. Alors finalement, vous, quel est votre rôle en tant qu'organisation non gouvernementale pour sensibiliser les collectivités oui. locales sur les précisions de cet agenda ?
C'est d'abord de faire connaître l'idée qu'on peut faire et un peu comment est-ce qu'on peut faire ces agendas 21 locaux. Et sous le nom d'agenda 21 locaux, il s'agit de quoi ? De faire des plans d'action qui respectent les grands objectifs qui sont sortis de la conférence de Rio, de l'agenda 21, lui, planétaire, etc. Mais c'est la meilleure façon, d'ailleurs, probablement, de donner un sens à l'agenda 21 lui-même. Alors, ce travail sur les agendas 21 locaux, nous, on l'a fait en particulier par une série de sessions, de formation à information auprès de collectivités régionales et communales, où on rassemble, au fond, les acteurs des collectivités territoriales qui sont concernées, c'est-à-dire les élus, les fonctionnaires municipaux et les associations qui travaillent sur les problèmes de cadre de vie, de vie urbaine, en quelque sorte. Hein. Ces trois acteurs-là, qui sont les acteurs centraux de l'agenda 21 local, déjà leur donner un peu de culture commune qui va faire qu'ils vont pouvoir commencer à travailler ensemble et commencer à penser l'agenda 21 local.
Est-ce que vous avez noté depuis 1992, donc depuis le sommet de Rio, une réelle prise de conscience auprès justement des collectivités locales, de l'opinion publique, auprès des différents réseaux avec lesquels vous travaillez ?
Je pense que ça a été très lent. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle nous avons constitué 4D. C'est précisément parce que cette lenteur nous paraissait un peu inquiétante. Je dois dire que je pense que les pouvoirs publics ont été un petit peu fautifs à l'égard de cette lenteur. C'est-à-dire qu'une fois refermés les flonflons de la conférence de Rio, Dieu sait qu'on en a fait, à ce moment-là, on n'a pas assuré vraiment tout à fait la continuité de l'information du public. Il y a eu un problème de prise de conscience. Et je pense d'insuffisance de pédagogie, d'explication et de démonstration. D'abord, il faut savoir bien faire apparaître en quoi ce dont on discute autour de préoccupations de type planétaire, finalement, ce n'est pas des choses qui sont à des centaines de milliers de kilomètres des gens, mais c'est en réalité des problèmes qui sont très proches d'eux. On peut avoir une façon de parler de l'effet de serre qui est une façon qui apparaît comme nous posant des problèmes tellement lointains, tellement complexes qu'on n'a pas d'action possible contre cela. Et puis on peut aussi avoir une façon de parler de l'effet de serre en parlant des problèmes du quartier. Parce que finalement, la façon dont on se chauffe, la façon dont on se transporte, la façon dont on traite les problèmes des déchets, etc., tout ça a des rapports très directs avec l'effet de serre. Et le problème massif et planétaire qui nous préoccupe, avec l'ensemble de ses conséquences tout à fait considérables, n'est finalement que l'addition d'une série de gestes qui se situent tout à fait dans la proximité immédiate. Donc, je crois que c'est par là qu'il faut repartir.
Depuis le sommet de la Terre en 1992, on a pris conscience des dangers de continuer à gaspiller les ressources de notre planète comme si elles étaient inépuisables. Mais les pays les plus pollueurs, comme les États-Unis, refusent encore des normes sur l'émission des gaz à effet de serre sous la pression des lobbies industriels. Et pour les pays en développement, l'environnement est loin d'être prioritaire. Un constat de départ qui risque d'être en toile de fond des conférences sur les climats en décembre à Kyoto et sur l'eau en 1998 en France. C'était Fréquence Terre, une émission du service magazine de Radio France Internationale. Reportage, Cyril Belsimon. Entretien et présentation, Véronique Guémard. Réalisation, Marc Delouvrier. Mixage, Laurent Boissard. We'll be right back.
Merci à Arnaud Jouve et son équipe. On peut, grâce à leur reportage précieusement conservé, mesurer le chemin parcouru. Cette archive-là date du mois d'août 1997. Aujourd'hui, concernant le développement durable, le pessimisme reste de rigueur. La notion de réchauffement climatique, qui commençait à être largement admise à l'époque, est de nouveau contestée par certains États, les États-Unis notamment. Pourtant, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a quasiment doublé. La température moyenne a augmenté de plus d'un degré. De nombreux phénomènes sont associés à ce réchauffement. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur ou les précipitations extrêmes. Et aujourd'hui, on ne se demande plus comment éviter le réchauffement climatique, mais plutôt comment s'y adapter. Les pays se réunissent, des accords sont signés, mais le problème reste entier. Depuis le sommet de la Terre à Rio, il y a eu des progrès quand même. La conscience du problème, par exemple, par les populations, la mobilisation des scientifiques, des médias, voire des politiques pour combattre le phénomène. Les énergies renouvelables gagnent du terrain, le tri des déchets tente de s'imposer. Mais les mutations sont lentes, on le sait, il faut de la patience et de la persévérance. On en reparle la semaine prochaine, juste avant que s'ouvre cette COP 30 à Belém, au Brésil. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous retrouvez, ainsi que toutes les précédentes, sur notre site alternantefm.fr. Au Brésil, on y reste en musique avec un maître de la bossa nova, Carlos Jobim, joué par le trio Sergio Mendes. La samba à une note. One note samba. This is just a little samba built upon a single note. À la semaine prochaine. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and don't say nothing, honestly nothing. I've used a thought of scale and knowing at the end I've come to nothing, honestly nothing. And I come back to my first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you.